tout de suite sur E-Radio, retrouvez Île d'Europe, une émission présentée par Boris Medjori.
Tous les chemins mènent à Rome, mais surtout à la seconde Rome.
Et bienvenue Île d'Europe, sur vivre dans un continent qui bouge. Nous sommes toujours à la recherche des outils pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde et comme nous l'avons souvent fait, parfois ça nous fait du bien, on va faire un petit détour historique et c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Delphine Lauritzen, chercheuse en études grecques et plus particulièrement byzantines, impliquée également dans un projet européen de recherche pour étudier les anges byzantins. Bienvenue à Île d'Europe, Delphine Lauritzen.
Bonjour Boris.
Bonjour Delphine. Et nous allons parler de l'histoire et dans les prochains épisodes aussi de la culture de l'Empire byzantin. Mais commençons par les débuts. C'est comment, Delphine, d'expliquer ton travail quand tu rencontres des gens, quand ils découvrent ces métiers insolites, les métiers des byzantinistes. Qu'est-ce que tu réponds quand ils te posent des questions sur ces métiers?
Alors je réponds que je m'intéresse à Byzance. Alors Byzance, c'est vaste, mais Byzance est présente dans l'imaginaire collectif. Alors il n'y a qu'à penser à l'expression « c'est Byzance », c'est-à-dire cette espèce de fascination pour l'Orient. Et en même temps, c'est une période extrêmement mal connue. Donc il y a des préjugés du type « ah oui, Byzance, ce sont des querelles de moines, c'est un domaine extrêmement compliqué ». Donc c'est vrai que quand je me présente et j'évite justement ce mot de byzantiniste qui peut être assez rébarbatif, j'essaie de donner une vision assez culturelle de ce que je fais parce que mon travail de base, ce sont les manuscrits. C'est-à-dire cette richesse extraordinaire que Byzance a transmise à notre civilisation. Byzance a transmis la culture grecque. Donc nous ne le savons pas assez, mais nous sommes tous des Byzantins de par la culture. Et pour donner un petit exemple, sans Byzance, sans tous ces moines copistes, effectivement, qui ont copié tous ces textes, eh bien, par exemple, nous n'aurions pas Homère, nous n'aurions pas les tragédies grecques. Donc, pas d'Eschyle, pas de Sophocle, pas de Ripide, ce qui veut dire, du point de vue français, tout simplement, que la Phèdre de Racine n'existerait pas. Nous n'aurions pas non plus les fables de La Fontaine, qui viennent d'Ésope. Donc, c'est vrai que souvent, on s'arrête à des clichés sur Byzance, mais ces fameux moines byzantins, qui ont bien existé, ils ont aussi et surtout transmis toute cette richesse culturelle incroyable qui fait de l'Europe ce continent merveilleux qu'il est actuellement.
Et imaginons encore cette rencontre avec quelqu'un qui ne te connaît pas. Est-ce qu'il te pose des questions par rapport à une dimension géographique, des coordonnées historiques, par rapport à qu'est-ce que c'est Byzance, qu'est-ce que c'est l'Empire byzantin, etc.
Les gens ne posent pas la question parce que peut-être ils ne font pas tout de suite le lien entre la Byzance historique et puis la ville moderne, qui a pour nom Istanbul, mais nous parlons là d'une même réalité géographique, en tout cas. Et j'allais dire, il y a aussi cette expression « tous les chemins mènent à Rome ». Alors, moi, j'aime bien répondre à ça quand on me dit « oh là là, tu t'occupes de choses extrêmement spécialisées, c'est très, très spécifique ce que tu fais ». Alors, je dirais non, parce que tous les chemins mènent à Rome, mais surtout à la seconde Rome. C'est-à-dire que dans l'Antiquité et dans l'Antiquité tardive, c'est-à-dire cette période de transition entre l'époque impériale et ce qui deviendra par la suite Byzance, à proprement parler, on a vraiment cette idée que le déplacement du centre de l'Empire romain passe de Rome à Constantinople, donc en 330 après Jésus-Christ. Mmh. Et ce qui reste le Mare Nostrum des Romains, de l'Empire romain, devient au cours de ces siècles-là, en se réduisant à la portion orientale de l'Empire romain, ce que nous appellerons l'Empire byzantin. Mais il faut bien se représenter que les Byzantins eux-mêmes ne s'appelaient pas des Byzantins. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en 1453, avec la chute de Constantinople devant les armées de Mehmet II, le sultan turc, jusqu'au bout, les Byzantins s'appellent eux-mêmes des Romains, puisqu'ils sont vraiment les héritiers non seulement de toute la culture hellénique, de toute la culture grecque, mais aussi des structures institutionnelles héritées de l'Empire romain. Donc, ce qui est vraiment fascinant avec cette ville, qui s'appelle d'ailleurs en grec « la ville », il n'y en a pas d'autre, c'est la seule ville qui compte, c'est qu'il s'agit au départ d'une petite colonie grecque, Byzance, sur les rives du Bosphore. Byzance qui devient Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, et puis finalement, après 1930, Istanbul. Mais suite à cette question de géographie, c'est intéressant puisque nous sommes sur une émission européenne finalement. Byzance se situe sur le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie, c'est-à-dire la péninsule anatolienne.
Et au-delà des symboles et de l'appartenance de Byzance dans cet imaginaire, Byzance a quand même contribué à bâtir les continents dans lesquels on vit aujourd'hui. On revient tout de suite après la pause musique, toujours en compagnie de Delphine Lauritsen, ici sur Île d'Europe. À tout de suite. Sarı seni benden ayırmalı İçimde buruşmuş yırtık kağıt Kimseler ütüleyemez ki artık Güneş doğacak diyorlar yarın Dönüp bak sende kalmış yarım Bu kandırmaca göbek adım Yıldızlar misali yok olacak Adım adım tane tane Sen kal derken hesap yine bende Ödenmemiş bedellerde öpüşsünler sol cebimde Sokak sokak deli deli Her yabancıya sordum seni Tüm yolları denemiş kaybetmiş biri gibi kabullendim şimdi Onarmaya halimiz yoksa daha da kırmayalım Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım Bacadaki iz gibi silinmiyor ki izi Sevmiştik öylesine boşver utanmayalım Onarmaya halimiz yoksa daha kırmayalım Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım Bacadaki iz gibi silinmiyor ki izi Sevmiştik öylesine Boşver utanmayalım Boşver utanmayalım Boşver bizi güzelim Boşver Onarmaya halimiz yoksa daha da kırmayalım Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım Bacadaki iz gibi silinmiyor ki izi Sevmiştik öylesine boşver utanmayalım Onarmaya halimiz yoksa daha kırmayalım Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım Bacadaki iz gibi silinmiyor ki izi Sevmiştik öylesine boşver utanmayalım Calvin, Casim Patilar.
Île d'Europe sur E-Radio.
Et nous revoilà sur Île d'Europe aujourd'hui pour parler avec Delphine Lauritsen, chercheuse en études grecques et byzantines, de Byzance et de son histoire. 330 après Jésus-Christ, le transfert de la capitale de l'Empire romain, de Rome à Constantinople. Delphine Lauritsen, est-ce qu'il faut imaginer quelque chose un peu comme on a vu en 2008 chez Lehman Brothers, les employés qui s'en vont avec les cartons du bureau? Est-ce que c'était un transfert bien organisé, préparé, ou c'était quelque chose de totalement comme ça, dans la foulée de l'arrivée des barbares?
Oui, oui, il y a eu quelque chose d'assez bien organisé, d'ailleurs. Il y a eu un transfert non seulement de personnes, mais aussi de biens et d'œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, comme toute cité antique, mais particulièrement comme capitale, Rome était pleine d'objets d'art et en particulier de statues. Dans les rues, il y avait des forêts de statues qui s'élevaient. Eh bien, toutes ces statues, toutes ces œuvres d'art passent à Constantinople, donc la deuxième Rome, la nouvelle Rome, pour restaurer le patrimoine artistique de cette cité. Et Constantinople est d'ailleurs bâtie comme Rome, sur cette colline mythique. Et il y a également un transfert de personnes dans la mesure où l'empereur et l'administration impériale prennent la décision de transférer le Sénat romain, qui maintenant siégera dans la nouvelle Rome à Constantinople. Et alors, qui veut dire Sénat ? Veut dire sénateur, veut dire des charges attribuées par la haute administration impériale. Et quand ces gens-là, quand ces familles-là se déplacent d'une ville à l'autre, c'est là où on peut vraiment parler d'un transfert de capital avec tout ce que ça implique. Parce que oui, on sauve ce qu'il y a à sauver, mais c'est bien parce que les barbares sont là. Et finalement, ce qui sera effectif quelques deux siècles plus tard, on abandonne la partie occidentale de l'Empire pour se concentrer sur la partie orientale.
D'accord. Et donc, pour poser un jalon temporel sur la fin, l'Empire byzantin existe pendant plus de 1000 ans jusqu'à 1453, moment du siège de Constantinople par les Turcs, les Ottomans. Qu'est-ce qu'on dit, Delphine ? Aide-moi. On dit Turcs ou Ottomans ?
Alors, pas encore des Ottomans, mais en tout cas des Turcs. Question de périodisation historique. Effectivement, bon, Mehmet II était avec la tête, encore une fois, d'une armée essentiellement composée de Turcs, avec les troupes d'élite comme les janissaires, les bachibouzouks. Alors ça, ce terme peut-être évoque chez les gens qui nous écoutent. Bachibouzouk, c'est une des injures préférées du capitaine Haddock dans Tintin. Mais en fait, non, c'est un corps d'armée du sultan. Donc ce terme, il a une existence historique. Alors, avant d'en arriver à la fin de l'Empire byzantin, il y a quand même eu quelques coups de semonce.
Par exemple ?
Eh bien, en 1204, il ne faut pas oublier que la quatrième croisade passe et s'arrête à Constantinople, mais qu'en plus, les croisés, qui sont pourtant des chrétiens qui vont en Terre Sainte, profitent de l'occasion pour piller la ville. Donc ça va contre toutes les règles des alliances et de la guerre et de l'idée même de ce qu'était une croisade, c'est-à-dire aller libérer la Terre Sainte. Au lieu de s'allier aux Byzantins, eh bien, les soldats de la quatrième croisade, alors pas tous, hein, mais la plupart des chefs, pillent Constantinople.
Et donc, c'était une longue fin, un long déclin pour l'Empire byzantin qui était commencé déjà deux siècles avant. Merci beaucoup Delphine Lauritzen, chercheuse en études byzantines. On revient avec toi la semaine prochaine pour continuer à parler de l'Empire byzantin et de sa culture. Pour aujourd'hui, c'est tout avec Île d'Europe. À la prochaine.
Boris Medjourine vous a présenté Île d'Europe. Retrouvez cette émission en podcast sur euradio.fr.